Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute!
Bonjour Louise!
Bonjour!
Bonjour!
Comment vas-tu Louise?
Très bien!
Bon, super! Écoute, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. On est bien contents d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors Louise, t'es avocate spécialisée dans le droit de l'environnement et t'es la fondatrice de Kaizen Avocat, donc c'est un jeune cabinet engagé pour la transition écologique dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui. T'interviens également pour l'association Notre Affaire à Tous et tu es au conseil d'administration de l'association Réseau Environnement Santé. Donc on comprend bien que tu es assez engagée en faveur de la transition écologique et la protection du vivant. Et c'est beaucoup de ça dont on a envie de parler avec toi aujourd'hui. Et pour démarrer, la toute première question qu'on avait envie de te poser, c'était de comprendre pourquoi tu avais choisi le droit, et plus particulièrement le droit de l'environnement plutôt que le droit des affaires, droit social ou autre domaine de spécialité.
Excellente question Hélène. Écoute, pourquoi le droit? Déjà, à la base, c'est parce que j'avais envie de comprendre notre état de droit, parce qu'en fait, on est dans un système qui est censé être un état de droit, une démocratie qui est basée sur des principes, l'application, voilà, nul n'est censé ignorer la loi, sauf qu'en fait, en réalité, il y a assez peu de personnes qui comprennent vraiment quelle est l'interaction entre le droit international, la Constitution, qu'est-ce qui s'applique vraiment à nous, quel droit on a, comment agir. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de comprendre le monde dans lequel je vivais. C'est pour ça que je me suis lancée d'abord dans des études de droit. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le droit constitutionnel. C'était hyper intéressant, justement, de comprendre comment ça fonctionne, les institutions, les différents pouvoirs, la séparation des pouvoirs, etc. Et après, pourquoi le droit de l'environnement? En fait, ça fait depuis très longtemps que je suis sensible à notre interaction et à notre appartenance à la nature. Et donc, je suis végétarienne depuis que j'ai 17 ans. On va dire que je pratique du zéro déchet depuis que j'ai 17 ans. Et je me sens très appartenant au vivant et en essayant de nuire le moins possible au vivant.
C'est marrant, qu'est-ce qu'il y a eu à 17 ans pour que ce soit le déclencheur de toutes ces prises de conscience?
Alors, il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà eu... Enfin, j'ai fait pas mal de... Je faisais des ateliers de géopolitique à l'époque et on a eu beaucoup de choses sur l'eau, sur l'environnement, dans ces ateliers de géopolitique. C'était hyper intéressant. Et aussi, j'ai lu l'autobiographie de Gandhi et ça m'a beaucoup parlé. Gandhi, il était avocat. Il a utilisé aussi le droit, les moyens légaux et les moyens des obéissances civiles pour un monde plus juste, quelque part. En tout cas, à l'époque, c'était pour ce qu'il a fait contre l'Empire britannique, mais il y avait aussi une démarche de ne pas nuire globalement, qui est en sanskrit l'ahimsa, qui met en pratique dans tout ce qu'il fait. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup fait réfléchir.
Ok. Top. Et alors, toi, tu as choisi de te spécialiser plutôt droit de l'environnement. On sait qu'il y a d'autres droits et sur lesquels tu interviens aussi, le droit de l'énergie. Voilà, il y a plein de secteurs qui peuvent toucher l'environnement dans sa globalité. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le droit de l'environnement, en fait, à quoi ça sert?
Ça sert à protéger l'environnement, à la base. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a plein de branches. En fait, t'as les grands principes du droit de l'environnement, droit international et en droit européen et en droit français. Et le but, c'est, par exemple, c'est inscrit tel quel dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est d'assurer un niveau élevé de préservation de l'environnement. Et aujourd'hui, le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé, c'est une liberté fondamentale. Donc, pour moi, c'est allier le droit de vivre dans un environnement sain, qui du coup est aussi un droit à la santé, parce que si on vit tous dans un environnement pollué, on ne respecte pas cette liberté fondamentale. Donc, on va dire qu'il y a une branche santé, une branche environnement, et tout ça, c'est encadré par des lois et à la fois au niveau interne, donc en France, Union européenne et international.
Ok. Et juste, moi, j'avais aussi entendu parler du coup du droit de la nature. Tu peux nous expliquer un peu la différence, s'il y en a une, ou si c'est similaire?
Ouais, en fait, donner des droits à la nature, c'est les démarches qui visent à donner une personnalité juridique au vivant, par exemple à un fleuve, ou à une montagne, ou à une forêt. Et du coup, le but, c'est que cette entité naturelle, qui a du coup une personnalité juridique, puisse se défendre dans le système juridique. En France, ça n'existe pas encore, mais ça existe dans d'autres pays. Je sais qu'en Colombie, ils ont donné la personnalité juridique au Rio Magdalena, qui est une grande rivière. Et il y a plein de pays dans lesquels ils ont donné des droits à la nature.
Et dans ce cas de figure-là, pour bien comprendre, comme la rivière ne va pas se défendre toute seule, c'est des citoyens ou des collectifs qui interviennent, ou comment la rivière se défend?
C'est une bonne question, et j'avoue que je n'ai pas approfondi ce sujet suffisamment pour pouvoir te répondre.
Okay.
Après, c'est vrai que moi, je suis plutôt sur les trucs très opérationnels. C'est beaucoup des universitaires, des associations qui travaillent dessus, notamment Notre Affaire à Tous, et des universitaires comme Valérie Cabane qui travaillent beaucoup sur le sujet des droits de la nature.
Alors du coup, si on revient un peu à ta pratique en tant qu'avocate, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'avocates femmes dans ce métier, mais ça reste un secteur assez sexiste. Qu'est-ce que c'est du coup d'être avocate en droit de l'environnement? Là, tu es dans un cabinet entouré d'autres avocates, donc c'est vrai qu'il y a peut-être que vous êtes un peu, vous vous sentez un peu protégée ou dans un cocon, mais toi, dans ton expérience, dans tes précédentes fonctions, qu'est-ce que c'était être avocate en tant que femme?
Effectivement, j'ai vécu des remarques sexistes, comme je pense la plupart des femmes en milieu professionnel. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une profession qui est largement féminisée, c'est-à-dire qu'il y a plus de 70% d'avocates et 30% d'avocats. Mais il y a quand même des remarques sexistes et l'égalité femmes-hommes est loin d'être appliqué. D'ailleurs, là, à Lyon, là, on a une bâtonnière et elle organise ce qui est organisé par l'ordre bientôt, c'est hyper intéressant. Il y a une journée de formation à l'égalité femmes-hommes et l'idée, c'est de porter une dynamique justement qui change un peu les choses pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans la profession. Ça, c'est assez intéressant. Après, dans mon évolution, dans mon parcours professionnel, au début, je disais rien, qu'il y avait des démarches, il y avait des remarques sexistes. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, en fait, je vois pas pourquoi je dirais rien, parce que je dirais quelque chose en dehors de mon métier. Et donc, j'ai osé prendre la parole quand il y avait des remarques sexistes. Je me souviens notamment d'une réunion où on était une douzaine de personnes, il y avait trois femmes, et puis après trois femmes qui n'étaient pas associées, et tous les autres hommes qui étaient associés, et qui disaient « Ah bah c'est bien, on va faire un webinaire, et puis on mettra elle, parce que voilà, comme ça elle est belle, comme ça elle va attirer du monde, comme ça, voilà. » Et j'avais dit « Non, en fait, là, on a déjà eu, c'était à l'époque de l'élection de Trump, j'avais dit « Aujourd'hui, on a déjà eu l'élection de Trump, au niveau sexisme, je pense qu'on est déjà suffisamment, on n'a pas besoin d'une dose supplémentaire. » Et donc les personnes qui étaient là avaient dit « Oh, mais c'est pour rigoler, oh, c'est pas grave, c'est pas si grave. » Et puis les femmes étaient venues me voir après pour me remercier, parce qu'en fait, elles en avaient marre de cette ambiance, mais qu'elles n'osaient pas prendre la parole. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet de s'entraider aussi en tant que femme, entre femmes, et d'oser prendre la parole et de dire en fait « Non, c'est pas ok, les remarques sexistes dans le milieu professionnel. » Je veux dire, on est là. On doit normalement respecter le principe de non-discrimination et en fait avoir ce genre de remarques, ça entretient un climat désagréable pour toutes les femmes qui sont là et pour aussi certains hommes qui n'adhèrent pas à ces valeurs mais qui n'osent pas prendre la parole. Et la dernière fois, j'ai bien aimé, j'étais à une réunion et il y avait des stickers sur la porte en mode « si t'as des remarques sexistes, homophobes, racistes, c'est pas ok en fait ». Et du coup, de le mettre clairement, bon, c'est une réunion en Suisse, peut-être que ça explique des différences culturelles, enfin ça vient des différences culturelles, mais en tout cas, c'était la première fois que je voyais dans une salle de réunion.
Entre avocats.
Là, il y avait des avocats, ouais, c'était un organisme public. et de mettre en fait ouais, en fait ça c'est pas ok, mmh. Et tu peux le dire en fait si c'est pas ok, tu peux dire, tu peux exprimer ton désaccord, mmh. et qu'on revienne dans une des relations professionnelles qui sont respectueuses de chacun chacune.
Oui, oui, c'est un sujet qui est pas, qui est plus tabou quoi, on lève un peu, mmh. le voile là-dessus, mmh. Est-ce que c'est une des raisons qui t'ont amené à créer ton cabinet?
Je sais pas si c'est une des raisons, je pense que c'est pas la raison principale. Après, c'est peut-être que ça, c'est dans un même sens, c'est-à-dire que j'avais envie aussi de proposer autre chose comme manière d'exercer la profession et de pouvoir exercer la profession d'avocat en se sentant bien, en ayant une bonne qualité de vie au travail, en ayant une ambiance bienveillante, en ayant voilà, une attention particulière à la dynamique vie pro-vie perso, la dynamique égalité femmes-hommes. Donc peut-être que ça a contribué, mais je pense que c'est plus global que ça. Et c'est vrai que, parce qu'en fait je trouve ça un peu dommage, c'est une profession qui est vraiment passionnante, c'est une profession qui est hyper intéressante, il y a plein de choses à faire, et en fait il y a beaucoup de cabinets qui mettent beaucoup la pression, et il y a beaucoup de gens qui sont un peu brisés. Et d'ailleurs, y a, donc, ce que je vous disais là tout à l'heure, il y a 70% de femmes dans la profession, et en fait il y en a 40% qui quittent la profession au bout de 10 ans. C'est pas du tout la même proportion chez les hommes. En fait il y en a beaucoup qui quittent la profession brisés parce que ben, pas d'évolution professionnelle, on a un enfant, après on se fait mettre au placard, il y a beaucoup de problématiques quand on, ouais, quand on a des enfants et qu'on revient de congé mat. Voilà, c'est assez compliqué, et moi je connais plein de femmes avocates qui étaient brillantes et qui ont quitté la profession.
Pour rester dans le domaine juridique ou pas du tout?
Pour rester dans le domaine juridique, soit pour faire totalement autre chose. Alors, qu'est-ce que j'avais? Architecte d'intérieur ou nutritionniste, ou voilà, complètement changé. Alors que le droit les intéresse, mais en fait les conditions de travail les satisfont pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une crise aujourd'hui dans les cabinets d'avocats de recrutement, parce qu'en fait, c'est pas attractif de travailler dans des ambiances où on met beaucoup la pression, il n'y a pas de qualité de vie au travail.
Okay. Et justement, on voulait te questionner sur les conditions de travail. Toi, avec ton cabinet, comment tu peux nous dire, toi, un petit peu ce que tu mets en place pour pallier un peu à tout ça et proposer d'autres relations de travail et une qualité de vie au travail différente?
Eh bien, déjà, on est deux avocates au sein du cabinet, et donc Noémie est arrivée l'année dernière en juin. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que donc Noémie, elle avait d'abord postulé, elle a fait une candidature spontanée. Et puis moi, je savais que je voulais recruter, mais j'étais dans le rush à cette période-là, donc je l'ai rappelé un mois ou deux après. Et en fait, elle m'a dit « Non, mais je retire ma candidature parce que j'ai un projet bébé, donc je ne peux pas candidater alors que j'avais un enfant et tout. » Et je lui ai dit « Ben, je vois pas le rapport. Enfin, voilà, moi, j'aimerais bien quand même qu'on se rencontre et tout. » Et en fait, donc j'avais mis un processus de recrutement en plusieurs étapes avec un cas pratique, etc. Et en fait, voilà, c'était très bien ce qu'elle avait fait. Et donc, après, je lui ai dit « Ben, moi, c'est OK. » En fait, elle était hyper surprise parce qu'elle était tombée enceinte et du coup, que je l'embauche en étant enceinte. Donc ça, c'était assez intéressant. Et donc après, elle est partie en congé maternité, là, elle est revenue. En fait, adapte son temps de travail aussi pour pouvoir aller faire les rendez-vous chez le médecin pour sa petite fille qui est née, pour voilà, aller à l'hôpital quand il y a besoin. Et puis là, donc sa première fille, elle va aller à l'école. Du coup, elle va commencer plus tôt parce qu'elle va amener sa fille à l'école. On en a parlé. Enfin voilà. En gros, c'est de donner de la flexibilité pour que tu puisses avoir une vie personnelle épanouie à côté de ta vie professionnelle. Et puis là, il y a deux stagiaires. Et donc il y a une la dernière fois qui me disait qu'elle avait hyper mal au ventre parce qu'elle avait ses règles et tout, et elle me demandait si elle pouvait rentrer chez elle. Et je lui dis ouais, il y a pas de souci. Enfin tu vois, si tu en ressens le besoin.
Et du coup, tes valeurs, tu les mets aussi dans le cadre professionnel?
Oui. Ben, le but, c'est que que chacune se sente bien et dans un milieu professionnel qui soit bienveillant, à l'écoute des besoins, tout en faisant en sorte que voilà, s'il y a un coup de bourre, que on doit plus travailler à un moment donné. Voilà. Après, j'essaye de faire en sorte qu'on soit bien organisé pour voir la charge de travail et pour s'organiser aussi en conséquence. Donc, ça se passe plutôt bien parce que du coup, on a une réunion tous les lundis matins où on voit toute la charge de travail, on se dispatche les dossiers et puis.
Comme tu parlais aussi de se sentir bien dans le cadre professionnel, une question qu'on se posait aussi, c'était être avocate au service de la transition écologique dans un contexte d'urgence climatique, est-ce que c'est l'angoisse ou est-ce qu'au contraire, le fait d'être dans l'action, ça aide à être un petit peu optimiste quand même pour la suite. Enfin voilà, est-ce que t'es éco-anxieuse comme on dit, ou est-ce que ça va, comment tu vis les choses en fait par rapport à ça?
Je me suis pas éco-anxieuse. C'est clair que l'action ça aide. Après, j'ai quand même un espèce des fois de dénervement face à cette transition dont on parle tant mais qu'on ne fait pas du tout. Et c'est vrai que quand t'es vraiment dedans et impliqué depuis longtemps, tu te dis, mais en fait, quand est-ce qu'on arrête de parler et quand est-ce qu'on agit? Et c'est vrai qu'il y a un peu cet énervement-là, mais c'est plus de l'énervement sain, tu vois, qui après se dirige vers des actions. Après, ce que je trouve aussi super chouette, c'est que le fait d'être aligné avec ses valeurs et de dire, bah ok, nous en fait, on a une vision qui est de mettre notre expertise juridique au service de la transition écologique et climatique et au service de l'engagement de nos clients pour l'environnement. Du coup, ça a beaucoup de sens et tu travailles avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et en fait, tu vois aussi qu'il y a plein de gens qui bougent, qui font des choses, qu'il y a plein de projets chouettes. Donc, ça, c'est plutôt dynamisant.
Du coup, est-ce que selon toi, justement, le droit, est-ce que c'est un outil au service, un véritable outil qui fonctionne au service d'une transition de société? Est-ce qu'il y a des cas concrets ou qui te font dire que oui, ça avance? Ou est-ce que pour toi, c'est encore laborieux, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que vraiment le droit soit un véritable outil pratique, efficace aujourd'hui?
Il y a plein d'outils pour agir aujourd'hui face à l'urgence climatique et écologique. Aujourd'hui, on sait qu'on on fait face à une triple crise environnementale, hein, avec la perte de biodiversité, le climat et les pollutions. On sait qu'il faut agir sur ces trois champs. Et en fait, il y a plein de moyens d'agir. Donc le droit, c'est un outil parmi d'autres. Mais pour moi, le fait de faire son jardin, le fait de faire son bilan carbone et de voir comment réduire, le fait de parler aux autres, enfin, il y a plein de moyens d'agir. Par exemple, Anciela, qui est une super association sur Lyon, fait beaucoup de choses pour promouvoir la transition sur plein d'aspects. On peut toucher les gens. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un outil parmi d'autres, c'est pas le seul outil. Et après, est-ce que cet outil est mature et peut faire levier? Je pense que c'est sûr que ça peut faire un gros levier, le droit, parce qu'en fait, on est dans un état de droit, donc forcément. Et effectivement, moi, j'y crois. Après, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est dans une époque où la jurisprudence évolue beaucoup. Et ce que je vous disais sur le droit de vivre dans un environnement sain, respectueux de la santé, c'est une liberté fondamentale. En fait, ça, c'est une jurisprudence qui date de septembre 2022, ça fait même pas un an. Donc en fait, on voit que les juges aussi prennent de plus en plus conscience des enjeux environnementaux, écologiques, etc. Il y a des associations de magistrats qui se créent. Il y a beaucoup de choses en fait, c'est vraiment en ébullition. Du coup, j'espère que ce sera plus facile demain qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, je vais devant des juridictions qui savent même pas ce que c'est que le droit de l'environnement. Donc j'ai déjà eu des cas où j'ai fait une audience et on m'a redemandé de venir parce qu'ils n'avaient pas compris en fait mon argumentation. Et du coup, je leur ai réexpliqué. Et tant mieux, parce que je préfère d'être reconvoquée à une audience et d'expliquer plutôt que d'avoir un jugement nul parce qu'il ne sera pas. Voilà. Donc, mais en fait, c'est clair qu'il y a un manque de connaissance du droit de l'environnement, mais pas que par les magistrats, je veux dire par toute la société. En fait, il y a plein de droits pour les citoyens. De droit par exemple d'accès aux informations environnementales pour qu'ensuite les gens puissent agir pour protéger les générations présentes et futures et en fait plein de personnes ne les connaissent pas et donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr, mais en tout cas je pense que c'est un levier. Aujourd'hui c'est déjà un levier et demain j'espère que ce sera encore plus fort parce que j'espère que les magistrats ont compris l'urgence. Et après, ce qui est problématique, c'est le manque de moyens, à la fois dans la justice et dans les institutions qui contrôlent les industries polluantes.
Ouais, ça, on voulait en parler aussi. Mais du coup, là, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Mais pour continuer sur ce sujet-là, le manque de moyens, toi, tu l'observes vraiment ? Est-ce que c'est un défaut de personnel, un défaut d'intention politique ? Enfin, quel est le problème, du coup, de faire appliquer
C'est exactement ce que tu résumes. Il y a un défaut d'intention politique. Ça, c'est sûr. Et il y a un défaut de personnel, ça, c'est sûr aussi. Donc, en fait, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Et au niveau institutionnel, il n'y a pas de volonté d'avoir une application stricte de la réglementation. Et il n'y a pas de volonté non plus d'avoir une réglementation qui est proportionnée aux enjeux actuels. Et c'est vrai que là, on a vraiment un problème. C'est d'ailleurs pour ça que l'État l'État a été attaqué pour carence face au climat, hein, pour inaction climatique. C'est que, bon, il n'y a pas que la France, hein, je veux dire tous les États dans le monde, il n'y a aucun État qui a une politique qui est proportionnée aux enjeux. Enfin, je veux dire, là, on parle de transition de neutralité carbone 2050, ça voudrait dire aujourd'hui, de toute façon, qu'il faut réduire nos émissions. Pour y arriver, il faut réduire nos émissions divisées par 6. Je veux dire, divisées par 6, enfin, on ne fait qu'augmenter. Donc, à quel moment on va déjà arrêter d'augmenter et on va commencer à réduire. Bon, le GIEC disait en 2018 qu'il fallait commencer avant 2020. Là, ils disent qu'en 2025, si on n'a rien fait, on est cuit, au sens propre. Du coup, tu te dis, mais en fait, à quel moment les résumés pour les décideurs vont être lus, compris et appliqués, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué, en fait. C'est aujourd'hui, on agit et on pollue. Ce qu'il faudrait, c'est agir et pas polluer et fonctionner différemment. Et en fait, il y a plein de moyens de le faire. Et quand on voit les résultats de la Convention citoyenne pour le climat, on voit bien qu'il y avait plein d'idées, c'était hyper ambitieux. Et ça, c'était des citoyens lambda qui avaient été formés. Donc en fait, comment ça se fait que nos députés et nos sénateurs et nos gouvernants ne comprennent pas ces enjeux-là et ne prennent pas des mesures à la hauteur des enjeux ? Je veux dire, quand on voit le nombre de SUV, tu te dis, bon, il y a un problème quand même.
Mais est-ce que c'est vraiment qu'ils ne comprennent pas ? Ou est-ce que c'est plutôt... qui veulent pas comprendre parce que ça arrange pas leurs affaires. Parce que des fois, moi, je vois le droit comme un peu un outil plutôt au service des gens qui ont du pouvoir, des puissants, et je me demande, des fois, justement, comme il n'y a pas, des fois, pas de sanctions, ou alors, des choses pas adaptées, est-ce que le droit protège vraiment les citoyens, les citoyennes, et protège pas plutôt, les puissants, les grosses boîtes, les pollueurs?
C'est une bonne question, hein. C'est vrai qu'on parlait de... En fait, le droit, c'est une manifestation pratique d'une philosophie, de valeur, tu vois. C'est pas le droit en soi... Enfin, tu vois, on va appliquer le droit par rapport aux valeurs d'une société, enfin, voilà. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, les valeurs de notre société, c'est pas égalité femmes-hommes, antiracisme, écologie, en premier. C'est plutôt profit, droit de la propriété, droit de la concurrence. Donc on va pas se mentir, du coup, ce qui est appliqué en premier, c'est le droit fiscal, le droit de la concurrence. Alors qu'en fait, ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'effectivement, il y a cette volonté de continuer dans le système actuel pour générer toujours des profits. Mais je pense quand même qu'il y a ce sujet d'avoir pas compris à quel point c'était une menace existentielle directe. Et Aurélien Barraud, il en parle très bien, de cette menace existentielle directe. Quand tu comprends à quel point on est touché dans notre être, nous, nos potentiels enfants, nos parents, nos proches, je pense qu'il y a quand même ce... Est-ce que tu peux continuer à vivre de la même manière quand tu as compris ça, vraiment compris, mais pas survoler le sujet ? Je me pose la question. Parce que, je veux dire, quand je vois des gens qui ont vu, lu, compris, ils réagissent pas, enfin, tu vois. Et je pense que c'est pareil, la Convention citoyenne pour le climat, les gens ont été formés, ils ont compris, ils ont pris des mesures ambitieuses, tu vois. Ils ont proposé des mesures ambitieuses. Donc je pense qu'en fait, et puis aujourd'hui, on parle de pollution, de santé. Quand tu vois, la dernière fois j'étais en réunion justement sur les perfluorés, il y a une personne qui me disait, ben moi mon enfant de 2 ans il a un cancer des testicules. Mais j'étais là, mais c'est horrible. Et en fait, on peut plus passer à côté de ça. Je veux dire, les bébés sans bras, les problèmes de prématurité, de pollution, de perturbateurs endocriniens, etc. Je veux dire, qui a envie d'offrir ça comme société? On aurait beaucoup plus envie d'avoir une société qui prend soin des citoyens, qui prend soin des bébés, qui plante pour qu'on puisse tous avoir de la verdure, parce qu'on sait que déjà c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour notre santé, et c'est beaucoup plus agréable. Enfin, en fait, je pense que quand on explique les choses, il y a une adhésion à ça, mais il y a beaucoup de force, d'inertie liée au profit actuel du système qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, de produits chimiques.
Est-ce que, à travers ton blog, le blog qui est sur le site donc, de Gazine Avocat, tu vulgarises pas mal de principes, de réglementation ou juste de règles de vie ou en tout cas de travail au sein de la profession? Quel est l'objectif derrière tout ça, derrière le fait de vulgariser des notions, justement, à qui c'est destiné et quel est l'objectif?
Donc pour moi, c'est destiné à toute personne qui est intéressée par l'environnement, par la préservation de l'environnement, parce que ça donne plein d'outils de compréhension de notre droit, de la logique, des grands principes. Et l'objectif, c'est vraiment de dire, ok, en fait, aujourd'hui, on est dans une société qui dit que le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé, c'est une liberté fondamentale, mais qui ne donne pas les moyens et les connaissances pour agir. Or, il faut bien être informé. En fait, tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne comprends pas. Et en fait, pour comprendre, il faut avoir les informations. Donc, le but, c'est de donner des informations à tout le monde, claires, synthétiques, avec des références juridiques, pour qu'ensuite, toute personne puisse agir pour préserver notre environnement pour les générations actuelles et futures.
Est-ce que ça peut permettre, du coup, aux citoyens, citoyennes qui ont envie d'agir, justement, de s'outiller et d'avancer? Parce que quand on a... Enfin, on parlait de Notre Affaire à tous, ou d'autres collectifs comme ça. L'objectif, ça peut être d'outiller, justement, les citoyens, citoyennes qui veulent agir et défendre leurs droits, justement, cette liberté fondamentale dont tu parlais. Mm-hmm. Parce qu'on peut se dire, oh là là, c'est compliqué, le droit, j'y comprends rien, les procédures sont longues, et en tant que citoyen et citoyenne, on peut se sentir vraiment tout petit et démuni. Du coup, ça pourrait être un outil intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment on peut agir à notre échelle, en fait?
Alors, on a mis la première boîte à outils juridiques sur le blog pour agir justement. Donc, on proposait trois outils. Le premier outil, c'est d'avoir accès aux informations. Donc ça, tu peux demander... En fait, il faut savoir que c'est hyper important, les informations environnementales, pour tout le monde. Donc en fait, toute personne peut y avoir accès en demandant, en faisant une simple demande. Et c'est pas que les documents administratifs, c'est vraiment toutes les informations, quel qu'en soit le support. Donc ça peut être une vidéo, un entretien audio, ça peut être plein de choses sur toutes les émissions dans l'environnement, l'air, le sol et aussi la santé. Donc ça, c'est un premier outil qui est très fort. Le deuxième outil, c'est de faire des réclamations. Si vous voyez qu'il y a des problèmes avec l'environnement, des pollutions, vous pouvez écrire aux autorités compétentes pour faire des réclamations. Il y a des formulaires sur Internet. Et le troisième outil, c'est de faire des actions en justice. Alors là, c'est sûr que c'est plus difficile à faire tout seul, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des actions rapides à faire en cas de problème. Et c'est vrai que, clairement, moi, je pense que le changement, il viendra du bas. Hein, il viendra pas du haut, parce que... Voilà, pour avoir échangé avec pas mal de personnes sur ce sujet... C'est un peu bloqué, voilà. Il y a des verrous en haut au niveau lobbying, ministère, etc. On le voit bien avec la démission de Nicolas Hulot. Hein. Même si t'as un ministre qui veut faire quelque chose, en fait, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Donc, à part si on a un président comme Grégory Doucet.
Grégory Doucet, pas du tout.
Bon, on verra, j'en sais rien, mais je dirais, à part que c'est un président qui a vraiment une vision écologiste claire et qui a compris, en fait, qu'il y avait une menace existentielle directe et qui a une politique écologique ambitieuse, clairement, sinon, il se passe rien. Donc en fait, il faut que ça vienne du bas, et c'est vrai que franchement, j'avoue, j'ai été choquée dans certains dossiers là, par exemple. Bon, on dit destruction de la biodiversité, etc. C'est hyper grave et tout. Et là, le cas, c'était une entreprise qui s'est dit pendant le confinement, bon alors moi, il y a 1 hectare là de terre naturelle, je vais faire un super stockage de déchets. C'est dans un parc naturel régional. Personne ne dit rien, à part une association. Mais genre personne. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'association qui a contacté la DDT. C'est la DDT, du coup, ils ont eu un PV d'infraction. Il y a une procédure pénale en cours. Mais en fait, c'est juste parce qu'il y a une association qui a bougé.
Ils ont le droit de s'installer là ?
Non, ils n'ont pas le droit. Ah non, mais du coup, ils n'ont rien eu comme autorisation d'urbanisme. Ils sont complètement en illégalité. Le pire, c'est que cette entreprise a ensuite attaqué l'association pour leur dire diffamation. Donc moi, je défends l'association dans le sujet de diffamation, mais surtout j'ai fait plein de demandes pour dire non mais en fait il faut qu'ils partent, il faut qu'ils reboisent, qu'il y ait un préjudice écologique, bref. Mais du coup, ce qui m'a choquée, c'est de dire en fait, la mairie pourrait faire quelque chose, le parc naturel régional pourrait faire quelque chose, l'État pourrait faire quelque chose. Mais en fait, toutes ces institutions devraient faire quelque chose. Et en fait, personne n'agit à part les associations. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet pour les citoyens de se saisir des outils juridiques pour faire avancer les choses. Et du coup, le troisième outil, c'est le référé. Et en fait, c'est un outil qui permet d'agir rapidement dans la justice pour réparer les dommages à l'environnement et à la santé qui sont subis. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Après, le mieux, c'est d'agir en amont, avant qu'il y ait ça. Mais si on ne peut pas le faire, de saisir les référés pour agir en urgence. Et en fait, ça a été prouvé, il y a un rapport parlementaire, il y a une mission qui a été mandatée par l'Assemblée nationale qui parle des référés, et en fait, ils disent, le problème, c'est que l'environnement, en fait, les atteintes, elles sont souvent irréversibles. Je veux dire, tu déverses 1 kilo de cyanure ou 1 kilo de trichloréthylène, et comment tu le retires? C'est hyper compliqué, ça coûte hyper cher, et puis en plus, ça se diffuse. Je veux dire, l'émigration, la pollution, enfin voilà, en fonction de l'hydrogéologie, de l'état des eaux souterraines, des eaux de surface, etc. En fait, il y a beaucoup de migration de pollution. Et donc, étant donné que c'est des dommages qui sont souvent irréversibles, c'est hyper important d'agir rapidement. D'où l'outil de référé. Et en fait, oui, moi, ce à quoi j'ai envie de contribuer avec le blog, c'est de dire, regardez tout ce qui existe pour agir. Il n'y a pas que ça, mais ça existe aussi. Du coup, vous pouvez aussi l'utiliser dans vos stratégies.
Ouais, s'il y avait des vraies sanctions qui dissuadent, tu vois, peut-être que...
Mais qui répare, quoi, ouais.
Peut-être qu'il ne ferait pas les bêtises de polluer.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr que... Mais c'est ce que je vous disais par rapport à l'intention politique d'appliquer strictement le droit de l'environnement, d'une part, et d'autre part, de modifier les règles pour avoir des règles qui correspondent aux enjeux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réglementation sur le carbone, on n'a pas de réglementation pour préserver... Enfin, bon, voilà, par exemple, je veux dire, t'as des arbres, là, tu peux les couper. T'as pas besoin d'expliquer. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, on est dans un tel état d'urgence qu'en fait, c'est pas normal de pouvoir encore couper des arbres. C'est pas normal de pouvoir encore arracher des haies. C'est pas normal, tu vois, tout ça, alors que de pouvoir détruire des zones humides. En fait, notre réglementation... Après, il faut voir aussi que le droit, il a toujours un temps de retard. C'est-à-dire que il est fait a posteriori. Et là, en fait, il a été fait à un moment où on n'avait pas les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Et du coup, le problème, c'est que le droit n'est pas encore adapté aux enjeux. Et c'est vrai que, par exemple, tu peux encore aujourd'hui détruire des zones humides en ayant un permis pour détruire des zones humides. Et par exemple, si tu détruis moins de 1000 m² de zones humides, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est encore possible de faire ça. Alors que quand on est... Enfin, et c'est vrai que ça, c'est dingue, parce que... Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de vulgariser, c'est que la plupart des gens, ils croient que non, c'est pas possible. En fait, des fois, j'ai des gens au téléphone qui sont là, mais... En fait, ils font ça, je dis, ils ont le droit.
Ouais, ça choque un peu, effectivement.
Ça choque complètement. Et c'est pas récent, hein, parce que dans un dossier, justement, dans le premier dossier d'écocide qu'on gère, il y a un courrier des années 70 qui dit on vit dans un cloaque, au lieu de parler de protection de la nature tout le temps dans les médias, faites quelque chose. Mmh. Un courrier des années 70. Donc en fait, on voit bien, de toute façon, après, c'est dans les années 70 qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été prises, etc. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on parle de la préservation de la nature. À quel moment on va le faire, en fait? Surtout que, à quel moment on va comprendre qu'on est en interrelation totale avec toute notre planète et qu'en fait on ne peut pas polluer en pensant qu'il n'y aura pas de répercussions, en fait. C'est vrai que c'est assez perturbant. Mais bon, après, moi j'espère qu'en fait ce qui va changer, c'est que les magistrats vont prendre et que du coup ça va faire évoluer la loi.
Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que toi tu sens. tu flaires un peu qu'on va justement dans ce sens-là de l'évolution de la loi, d'une réglementation plus dure au niveau du droit d'environnement. Enfin, est-ce qu'on va dans le bon sens selon toi ou pour l'instant non, ça suit son cours?
Alors il y a des choses qui sont faites, hein. Par exemple le délit d'écocide a été créé par la loi climat et résilience de 2021, donc c'est nouveau, c'est une nouvelle infraction, c'est intéressant, mais il y a aussi des choses qui sont faites dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il y a des assouplissements de la réglementation. Par exemple Lubrizol, donc ça a eu lieu en 2019, et Lubrizol, le sujet c'était le stockage de matières combustibles. Et en fait, le stockage, t'avais une ICPE, enfin, en gros, t'étais une installation classée pour la protection de l'environnement, donc une activité industrielle. Si t'étais soumis à l'autorisation, qui est le niveau le plus haut, à partir de 300 000 m3. Et en fait, ils ont modifié la réglementation, et ils ont relevé les seuils à 900 000 m3. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, j'étais, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que c'est tellement technique, que tout le monde pense que, voilà, ils ont modifié la réglementation dans le bon sens. Non, pas du tout. En fait, ils auraient dû baisser à 50 000 mètres cubes. Enfin, tu vois, en fait, on a vu. Et d'ailleurs, ça a recramé il n'y a pas très longtemps à Rouen. Et du coup, tout le monde a dit, oh, c'est bizarre. Bah non, c'est pas bizarre. Pas de plus de services d'inspection. On a assoupli la réglementation alors qu'on a vu qu'il y avait des problèmes. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a une volonté politique de réindustrialiser, donc d'assouplir. Et donc, en fait, ils assouplissent d'un côté la réglementation, et puis d'un autre côté, il y a des petites trucs sur les coccides ou sur les espèces protégées. Mais bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est largement insuffisant par rapport aux enjeux. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État a été condamné.
Peut-être une dernière question. Est-ce que tu as des œuvres, des films, documentaires, podcasts, livres qui t'inspirent et que tu voudrais partager?
Bah, après, dernièrement, ce qui m'a inspirée, c'est d'aller à Ethica Mondo, qui est un lieu où ils sont vraiment en immersion, pleine nature, où en fait... Il réalise une agriculture qui favorise la biodiversité, où ils sont vraiment dans la réflexion, dans l'interrelation entre l'humain, la nature. Voilà, parce qu'en fait, on forme un tout et c'est vraiment très intéressant. Ah si, et ma dernière petite pépite, c'est le média vert, le média qui annonce la couleur, qui est vraiment super, enfin, je trouve vraiment bien, qui fait une newsletter. Moi, je me suis abonnée à une newsletter quotidienne et c'est vraiment... du travail journalistique de qualité, il te donne vraiment des clés de compréhension utiles et c'est assez interactif avec les lecteurs, tu votes pour savoir des sujets. Mais c'est, je trouve ça vraiment c'est un média très intéressant.
Top. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.